Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ils sont morts cliniquement et pourtant ils sont revenus à la vie. Depuis, ils ne vivent plus de la même manière et pour cause, ils ont fait ce que l'on appelle une NDE, Near Death Experience, une expérience de vie aux portes de la mort, pourrait-on dire. En France, il serait rien moins qu'entre 1,4 et 2,5 millions de personnes à avoir fait cette expérience, celle d'un grand tunnel de lumière, de la rencontre d'êtres chers et d'une telle impression de bonheur et de paix que le retour à la vie est la plupart du temps bien difficile pour eux. Que penser des NDE? Que vivent vraiment ces personnes? Que dit l'Église de ces expériences aux frontières de la mort? C'est ce que je vous propose de voir ce matin. Pour cette émission donc sur le NDE, je reçois ce matin le père, Patrick Tellier, bonjour.
Je suis père aussi, hein, bonjour.
Vous êtes père de famille, c'est différent. Oui. Vous êtes donc l'auteur d'Expérience de mort imminente aux éditions Artege, sous-titré Un signe du ciel qui nous ouvre à la vie invisible. Alors, pour vous présenter, donc, vous êtes médecin et vous avez été de 1998 à 2010 médecin permanent du bureau médical des sanctuaires de Lourdes. Avant qu'on parle de votre ouvrage, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire... nous redire, nous rappeler ou expliquer à ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Alors, les auditeurs connaissent quand même Lourdes.
En quoi ça consiste ?
Ce que c'est que ce bureau médical des sanctuaires de Lourdes.
D'accord. Bon, bonjour d'abord, parce que j'ai pas le temps de vous le dire avec tout ça. Oui, eh bien, à Lourdes, il y a depuis les années 1880 un médecin permanent qui est là pour représenter la science d'une certaine façon et recevoir les déclarations volontaires et spontanées des personnes qui estime avoir bénéficié d'une grâce de guérison par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Donc ces gens-là viennent se présenter au bureau des constatations, s'ils le souhaitent. J'étais là pour ça, pour recevoir ces déclarations et pour authentifier ces guérisons, c'est-à-dire assurer que c'était bien une guérison, donc passage d'un état pathologique avéré à un état de santé évident.
C'est-à-dire que c'est vous qui reconnaissiez les miracles d'une certaine manière?
Non, je ne reconnais pas les miracles. Non, je suis là pour reconnaître qu'il y a bien eu guérison et que cette guérison n'a pas d'explication médicale. D'accord ? C'était à peu près une personne par semaine qui se présentait pour ça, donc une cinquantaine par an. Mais je retravaillais aussi toutes les guérisons antérieures, bien entendu, et je ne voyais pas que celle-là. Mais c'est déjà pas mal. Et à partir de là, donc, j'en arrivais avec ce travail donc, de reprendre tous les documents antérieurs et postérieurs à la guérison, à dire, bon, ben oui, cette guérison mérite d'être retenue pour être éventuellement un jour reconnue comme un miracle par l'Église. Mais nous, en tant que médecins, nous n'arrivons qu'à la seule conclusion de dire... il s'agit d'une guérison réelle et cette guérison n'a pas d'explication médicale.
Alors, donc vous avez été de 1988 à 2010, c'est pas le
98
sujet...
98 à 2010,
ans. Voilà, 12 ans,
c'est pas
le sujet de l'émission.
Ce matin.
Malgré tout, je sais pas, il y a beaucoup de guérisons à Lourdes, du coup, en fait. Est-ce que vous pouvez nous...
Il y en a beaucoup plus qu'on imagine.
C'est-à-dire ?
Oh, à mon avis, il y en a certainement une par jour... qu'on ne connaît pas forcément, et une déclaration régulière toutes les semaines, vous voyez, ce qui est quand même déjà beaucoup, et puis toutes celles qui ne sont pas déclarées. Et j'en découvre, même maintenant que je ne suis plus parti du bureau des constatations, je suis à la retraite, je reçois encore régulièrement des gens qui me disent avoir vécu des guérisons, une guérison à Lourdes.
Donc vous êtes un médecin, on va dire, habitué des choses extraordinaires. Et donc vous avez à votre retraite, je ne sais pas si c'est la retraite qui vous a décidé à écrire ce livre, sur les NDE. Alors
oui.
Peut-être, dites-nous pourquoi vous avez choisi d'écrire ce livre. Et puis on va commencer l'émission. Qu'est-ce que c'est que les NDE?
Alors, c'est-à-dire que quand j'étais à Lourdes, j'étais là pour recevoir les déclarations. Donc j'étais disponible pour entendre les gens. Et je me suis rendu compte que certains nombres d'entre eux sont venus me raconter des histoires... a priori rocambolesque, donc de personnes qui avaient été considérées comme mortes cliniquement et qui avaient vécu, qui me racontaient avoir vécu une expérience absolument splendide, magnifique, dans un au-delà inimaginable et qui étaient revenues sur Terre, je dirais, dans l'atmosphère terrestre, complètement transformées. Et donc ces gens-là m'ont raconté ça, j'en ai eu une, j'en ai eu deux, j'en ai eu trois, et j'en ai eu même qui m'ont dit avoir guéri à cette occasion-là de leur maladie à l'origine de leur décès, entre guillemets. Donc ça m'a quand même surpris, impressionné. Et puis je me suis rappelé avoir lu des livres sur le sujet dans les années 70, de Elisabeth Kubler-Ross, par exemple, qui est quand même assez connue, ou de Raymond Moody, qui lui a donc sorti le premier livre sur le sujet, qui s'appelait « La vie après la vie », et qui est devenu un best-seller traduit dans 26 langues. Et pourquoi dans les années 70? Parce que c'est dans ces années-là qu'on a commencé à avoir des réanimations cardiovasculaires qui n'existaient pas dans les années 60 quand j'ai fait mes études de médecine. Et donc il y a eu de plus en plus de ces faits extraordinaires qui ont eu lieu aux États-Unis, mais aussi en France, bien entendu.
Alors vous rapportez un témoignage comme ça d'un certain Michel Durand. Oui. Vous dites ça au début de votre ouvrage. C'est le premier témoignage que vous donnez, qui est en lien justement avec votre travail le travail qui était le vôtre à Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous rapporter les propos de ce monsieur comme introduction?
Ce monsieur avait du mal à raconter son histoire, et en fait c'est son neveu dominicain qui m'a dit: vous savez, vous devriez l'interroger sur ce qu'il a vécu quand il a été malade, et puis qu'il est passé de l'autre côté, et puis il est revenu. Et alors donc je l'ai re-interrogé quand je l'ai revu, et en fait oui, il avait été malade. Je ne sais plus de quelle maladie, là je ne l'ai plus vraiment en tête. Vous l'avez peut-être sous les yeux, moi je ne l'ai pas. Mais,
une crise aiguë de, alors je ne sais pas comment ça se prononce,
cholécystite aiguë. Oui. Voilà, donc c'est une inflammation de la vésicule biliaire qui peut être très très grave. Et donc il était revenu à la vie, et il n'osait pas en parler, parce que la plupart du temps, ces gens qui font cette expérience le gardent pour eux. Parce qu'ils se disent, je vais avoir l'air d'un farfelu, toqué, je ne vais pas en parler. Donc il a fallu que je l'interroge plusieurs fois pour qu'il veuille bien me dire qu'en effet, il a été parti là-bas dans un autre monde et qu'il avait vécu une expérience assez unique d'une rencontre avec un être de lumière qui l'avait vraiment tellement marqué que pour lui, à partir de là, ce qui avait été le plus caractéristique, c'est qu'il n'avait absolument plus peur de la mort. Donc, bon, lui, c'était un catholique, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, lui, bon, là, il n'a pas fait une expérience unique de l'amour de Dieu pour lui, mais cette expérience-là faisait qu'il n'avait absolument plus peur de la mort.
Alors, les NDE, juste, qu'est-ce que c'est?
Alors,
que vivent ces personnes, en fait?
Alors, aujourd'hui, on parle plus en France, en bon français, d'EMI. NDE, c'est américain, donc expérience de mort imminente. Donc, c'est des gens qui sont à la limite, à la frontière de la mort, comme vous le disiez au départ, à la frontière de la mort. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Plusieurs choses. Tout le monde ne vit pas tous les événements que je vais vous raconter. La première chose, c'est qu'il y a très souvent une sortie du corps. C'est-à-dire que la personne se retrouve au plafond et voit son corps d'en haut, voit le chirurgien travailler sur lui, essayer de le réanimer en général, parce que ça se passe au moment d'une réanimation. J'ai eu dernièrement une dame qui m'a dit, j'avais vu ça, et quand je suis revenu dans mon corps, j'ai dit à l'infirmière, vous savez, le chirurgien, il a un grain de beauté dans la nuque. Elle m'a dit, comment vous pouvez savoir ça? Elle dit, j'étais en haut et je l'ai vu. Elle dit, c'est pas possible. Elle se dit, si, c'est possible. Vous voyez, j'étais tout en haut et j'ai vu qu'il avait un grain de beauté sur la nuque. Bon. Donc, ce qui montre bien qu'elle est vraiment extérieure à son corps. Donc, il y a une distanciation entre le corps et ce qui est au-dessus. Qu'est-ce que c'est? On en reparlera peut-être, mais bon, c'est autre chose. C'est l'âme, sûrement. À partir de là, ces gens-là peuvent aller encore plus loin et entrer dans ce tunnel qui est quand même, on commence à en parler, on en parlait déjà au Moyen-Âge, puisqu'au XVe siècle, Jérôme Bosch en avait fait déjà un tableau. Donc ils partent dans un tunnel très très rapidement, et puis ils arrivent dans un lieu céleste, en fait, où apparaît souvent une lumière brillante, mais très brillante, comme 1000 soleils, disent-ils, mais pas du tout aveuglante. Et c'est dans cette lumière qu'ils peuvent, alors là aussi, c'est pas tout le monde, d'abord, il n'y a que 10% des gens qui font cette expérience au départ. Et sur les 10%, il y a 1% peut-être qui va voir cette lumière brillante et qui va rencontrer cet être, un être de lumière, donc une personne qui est pleine d'amour, un amour mais vraiment absolu, inimaginable, et qui va avec elle lui dire ta vie, qu'est-ce que c'est ta vie? Qu'est-ce que tu as vécu durant ton existence? Donc elle les remet devant l'existence qu'elle a eue.
Alors, excusez-moi, vous dites donc que c'est 1% des 10% oui, qui gros. Font l'expérience d'une EMI. Est-ce à dire
que... Non, il y a 10% des gens qui font l'expérience d'EMI.
Voilà.
En et, gros, 10-20%.
Il y a 1% dans ces 10% qui vont... Qui,
enfin, jusqu'à cette reconnaissance d'un être de lumière.
Voilà, c'est-à-dire que les 9% ils s'arrêtent dans le tunnel, enfin,
voilà, ils reviennent. Trivial, hein, mais... ils vivent que ça, ou rien qu'une sortie du corps.
D'accord.
Hein, voilà. Et d'autres vont dans le tunnel, mais ne vont pas forcément plus loin.
Et dans le tunnel, il se passe quoi, en fait? On y rencontre des êtres chers, comme
non,
je le disais en introduction?
Non, pas encore forcément, mais quelquefois. Donc, en effet, ils peuvent rencontrer des êtres chers, qu'ils avaient connus ou pas antérieurement. Alors, j'ai souvenir d'une personne qui m'a dit, j'ai rencontré mon grand-père, mais ce grand-père, j'ai découvert que c'était mon grand-père, je ne le connaissais pas, mais c'était mon grand-père. Et il s'est présenté comme tel. Et c'est lui qui m'a dit, retourne. C'est pas ton heure. Bon. D'autres rencontrent des gens connus, aimés, chers, proches en général. Et puis d'autres donc font la rencontre d'une personne.
D'un être de lumière donc.
D'un être
qui
de
les
lumière.
Invite à un bilan de vie d'une certaine
un
manière.
Un bilan de vie. Et ce bilan de vie, moi j'ai connu une personne qui avait 12 ans quand c'est lui est arrivé. Et elle me dit, j'ai fait le bilan de ma vie dans les 12 premières années de mon existence. Ce qui est quand même assez étonnant. Voilà. Et en général, c'est là où il y a un retour, il y a une limite. Elles arrivent à une limite et soit la personne aimée lui dit tu rentres, soit l'être de lumière lui dit aussi bah écoute, c'est pas ton heure, tu repars. Et elles reviennent dans leur état d'existence antérieure, c'est-à-dire sur la terre ferme. Ce qui est jamais facile.
Et souvent en salle d'opération, en l'occurrence.
Alors souvent en salle d'opération, oui, quand ça arrive en salle d'opération. Alors c'est soit au cours d'une intervention chirurgicale, soit au cours d'un accident. D'autres se retrouvent dans leur voiture.
Le corps parfois brûlé ou...
Tout à fait, dans un état épouvantable, et avec les pompiers autour, etc. Ils retrouvent conscience tout d'un coup.
Alors, avant qu'on aille plus loin, c'est vrai que sur ce genre de sujet, on se dit qu'il faut être très, très prudent.
Tout à fait.
Vous êtes médecin, vous avez été responsable donc, de ce bureau médical des Sanctuaires de Lourdes de 1998 à 2010. Quelle a été un peu l'ampleur de votre étude? Vous citez des chiffres, je ne sais pas, vous avez interrogé combien de personnes, vous avez travaillé combien de temps sur le dossier?
Oh, j'ai travaillé 2 ans en complet pour écrire ce livre, hein. J'étais à la retraite, donc j'avais le temps. J'ai repris tout ce qui existait comme littérature. Il y a eu beaucoup de littérature américaine, maintenant en France il y en a beaucoup aussi, mais en général c'est une littérature plus, je dirais, ésotérique. Et là je me suis dit quand même, ça serait intéressant de présenter ce sujet qui est quand même grave et fréquent finalement, ce qui se passe là est assez fréquent, sur un plan avec une approche plus chrétienne, hein, parce que moi je me présente à la fois comme médecin et comme... chrétien, et c'était mon travail à Lourdes. Je ne vois pas d'opposition entre la foi et la raison à ce niveau-là. Il faut les deux. Il faut à la fois raison.
Vous avez fait ce choix, parce que c'est vrai que votre ouvrage, vous parlez des EMI,
oui.
Vous en faites une analyse scientifique, mais rapidement, vous basculez...
Oui, parce que les analyses scientifiques ont été faites à droite et à gauche aujourd'hui. Bon, il y a pas mal de bouquins là-dessus. Alors, c'est toujours pareil. Sur le plan scientifique, soit il y a tous ceux qui disent c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est une émanation du cerveau au moment de la mort. Ça, c'est l'opinion générale, je dirais, des scientifiques qui ont, je dirais, une approche plutôt scientiste de l'affaire. C'est-à-dire qu'ils se disent, là, on peut pas l'expliquer scientifiquement, donc ça n'existe pas.
Mais est-ce à dire que malgré tout, la majorité des scientifiques ne reconnaît pas au moins l'expérience sans l'expliquer? Parce que de fait, l'expérience est là. Ces gens, sauf à croire que tout le monde a fabule,
oui, voilà.
Ils ont fait cette expérience.
Bah oui, parce qu'il y a des millions de personnes qui ont fait cette expérience. Alors s'il y a des millions de personnes qui affabulent à ce point-là, c'est quand même assez étonnant. Mais si vous voulez, le paradigme scientifique actuel, c'est de dire tout vient du cerveau, donc comme... ces expériences arrivent chez des gens dont le cerveau est complètement à plat, avec un électroencéphalogramme plat, par exemple, hein, ça arrive. Il y a eu plusieurs cas qui ont été répertoriés. Donc, c'est pas possible. Or, c'est quand même possible chez ces gens qui ont un électroencéphalogramme plat.
Vous dites donc qu'en France, c'est entre 1,4, je le disais en introduction, et 2,5 millions de Français qui auraient fait cette expérience.
Ah, tout à fait. Et depuis que j'ai écrit ce livre, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de témoignages que j'ai reçus depuis. Ça a vraiment libéré la parole chez des gens qui n'osaient pas en parler avant.
Et ces scientistes, alors qu'est-ce qu'ils disent? En fait, ils reconnaissent à la limite l'expérience, mais ils disent que c'est tout simplement, en fait, quoi, un processus chimique du cerveau.
Un produit chimique qui expliquerait ça. Alors, c'est peut-être possible, hein, cette histoire de tunnel, on peut l'imaginer qu'il y a un passage, bon, que ça, tout le monde puisse passer dans ce genre de tunnel. Par contre, ce qui est vraiment inexplicable, c'est le vécu des personnes. C'est le fait d'avoir fait cette expérience d'être de lumière, plein d'amour pour eux. Je suis désolé, mais on ne peut pas l'imaginer comme ça. Le fait de rencontrer des personnes proches et aimées, là aussi, et inconnues d'elles avant, par exemple. Donc, ce n'est pas le psychologique. Psychologiquement, ce n'est pas possible, puisqu'elles n'ont pas connu ces personnes avant et elles le découvrent. Hein, ce garçon qui découvre sa sœur qui était morte avant lui une fausse couche à la fin de la grossesse de sa mère. Bon. Il ne pouvait pas le savoir, donc c'est pas psychologique. Voilà, donc c'est la science officielle a du mal à l'admettre. Par contre, il y a des médecins donc, qui ont fait des travaux expérimentaux, qui ont vraiment pris en compte toutes les expériences de mort imminente qui arrivaient dans leur service de réanimation et qui se sont rendus compte que ça pouvait pas ne pas exister. Il y a vraiment quelque chose qui a lieu. Le plus étonnant, c'est ce médecin neurochirurgien américain, Eben Alexander, qui n'y croyait pas une seconde. Il se disait en américain physicaliste, c'est-à-dire vraiment organiciste, quoi, et qui a
lui-même fait
lui-même.
Vous le citez d'ailleurs.
Oui. Alors il a vraiment un témoignage très intéressant parce que il est tombé de haut. Il faisait une maladie extrêmement grave dont on ne s'en sort pas a priori. Et puis il va revenir à la vie complètement guéri. Alors là, ça va lui poser question parce que normalement il ne devait pas guérir. À partir de là, il va publier un bouquin, La preuve du paradis. Il faut quand même le faire. Et là, lui, il est convaincu que ce qu'il a vécu là, ce n'était pas de l'invention. Il l'a vraiment vécu.
Alors juste, on va pas tarder à faire une pause musicale, mais j'avais quand même encore une ou deux autres questions. La première, c'est, on a dit en introduction, et vous avez dit que c'était la bonne expression, on est aux frontières de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là sont parfois en état de mort clinique, mais ils ne sont pas vraiment morts. Ils ne reviennent pas stricto sensu de la mort. Alors qu'est-ce à dire? Ça veut dire quoi? C'est quoi cet état intermédiaire
On connaît encore mal le moment de la mort. Et, en fait, il y a plusieurs morts. Il y a la mort clinique, c'est-à-dire l'arrêt cardiovasculaire, auquel succède très vite l'arrêt cérébral. Si le cerveau n'est plus irrigué par le sang qui vient du cœur, le cerveau s'arrête. Donc ça, c'est la première mort, la mort clinique. Puis qui va entraîner ce qu'on appelle la mort biologique, c'est-à-dire que l'arrêt total des fonctions du corps qui devient un cadavre à ce moment-là. Donc qui entre dans un état de décomposition avec cette rigidité cadavérique caractéristique. Et puis il y a aussi la mort qu'on appelle métaphysique ou ontologique qui est la séparation de l'âme vitale, celle qui donne la vie au corps, cette séparation du corps. Et là, cette séparation-là, elle est définitive. Il y a une rupture entre le corps et l'âme vitale.
Mais ça, on ne peut pas en avoir une approche scientifique. On ne sait pas quand l'âme quitte le corps.
Tout à fait. Là, c'est les théologiens qui le disent, parce que pour les scientifiques purs et durs, l'âme qui est immatérielle et immortelle n'existe pas. Je suis bien d'accord. Mais néanmoins, les expériences montrent qu'il y a à un moment donné cette libération de l'âme qui est vitale, qui permet au corps de vivre et de survivre, et qui de fait fait que le corps devient un cadavre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vitalité du tout dedans.
En tout cas, donc les EMI, c'est entre la mort cérébrale et la mort biologique, c'est ça? C'est entre les
Exactement.
Deux.
Exactement. Voilà. Donc c'est encore un corps vivant d'une certaine façon, pas devenu cadavre.
Donc je suis en salle d'opération, je suis sur un accident, arrêt cardiaque. Oui. Mort cérébrale.
Mort cérébrale.
Mais je ne suis pas comment dire, en état de décomposition.
Je ne suis pas devenu encore un cadavre à ce moment-là. D'accord.
C'est, souvent, ça dure longtemps, en fait, ces EMI on peut...
Plus ou moins longtemps. Plus ou moins longtemps. En fait, les EMI, elles ne durent pas longtemps. Hein. L'expérience de mort imminente en elle-même, ça dure certainement pas plus de 2-3 minutes. Alors que les gens ont l'impression de... On peut avoir l'impression d'avoir vécu des choses très longues. Mais en fait, objectivement, ça ne dure pas très longtemps.
Alors la dernière question avant qu'on fasse cette première pause, c'est que vous parlez aussi d'EMI, on va dire, négatives. Vous employez le terme EMI effrayante. Oui. Qu'est-ce à dire? Elles sont moins nombreuses.
Beaucoup moins
nombreuses. Il y a des gens qui font des expériences comme ça.
Beaucoup moins nombreuses. On a tendance en effet à parler d'expériences de mort effrayante et de mort imminente effrayante, parce que au lieu de voir quelque chose de beau, de magnifique, c'est plutôt terrible, dur à avaler. Se retrouve dans un monde effrayant, vraiment effrayant, avec des bruits épouvantables, des odeurs affreuses, etc. Alors là, ça pose question. Qu'est-ce que c'est? Pour les spécialistes, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Bon, moi, avec mon approche plus spirituelle, je dirais, je pense que la vie qu'on va mener après, hein, sera soit très bonne, soit très difficile, en fonction un peu de ce qu'on a vécu sur Terre.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, une émission Vivante Église sur les NDE, c'est Near Death Experience, comme je disais en introduction, en français EMI, expérience de mort imminente. Et c'est le titre de l'ouvrage du docteur Patrick Tellier, expérience de mort imminente aux éditions Artege, sous-titré Un signe du ciel qui nous ouvre à la vie invisible. Et je rappelle pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route que le docteur Patrick Tellier est l'ancien médecin permanent du bureau médical des Sanctuaires de Lourdes de 1998 à 2010. Alors dans cette première partie d'émission, on a vu grâce à vous ce que c'était que les NDE, le processus que vivent ces personnes, ce que dit la science, la manière dont les scientifiques se positionnent, voilà, de manière relativement contrastée, et puis ces expériences de mort imminente, donc effrayantes. Dans cette deuxième partie d'émission, on a envie de vous poser tout de suite la question, donc je le fais. Que dit l'Église de ça? C'est-à-dire que à vous lire, et puis quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on se rend compte qu'en fait l'Église pour l'instant est très prudente et qu'il n'y a pas beaucoup de paroles en fait sur ces donc, expériences.
Non, non. Sauf exception, l'Église prend du recul par rapport, enfin jusqu'à aujourd'hui, hein, maintenant ça peut évoluer. J'ai aussi mon évêque qui a fait une préface à mon livre, là, Mgr Marcaillet, évêque de Bayonne. Bon, l'Église...
Préface favorable, hein, je cite, favorable, assurément oui. Le livre du docteur Tellier est comme une brèche d'espérance dans un monde fermé à la transcendance et dont la culture est caractérisée par un humanisme immanentiste. Puisse cet ouvrage rejoindre tant et tant de nos contemporains aux prises avec l'énigme et l'angoisse de la mort, etc. etc.
Oui, oui, oui. Oui, si c'est pour ça, il a été positif. J'en suis très heureux, je le remercie, parce que je pense que ces expériences de mort imminente sont tout à fait en concordance avec l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans. Bon. Mais je comprends que l'Église et la hiérarchie en général soient prudentes. Bon, elle est prudente aussi vis-à-vis des miracles, de tout ce qui est de toutes les manifestations surnaturelles qui peuvent exister. Pourquoi ? Parce que elle voudrait pas qu'on tombe dans un certain fidéisme qui est de voir partout le merveilleux. Hein ? Parce qu'à partir du moment où on ne voit que du merveilleux sans utiliser sa raison, on risque fort de tomber dans un certain illuminisme, et à partir de là, c'est fait le lit de toutes les sectes que l'on voit aujourd'hui. Donc l'Église tient beaucoup à la raison en même temps que la foi, et aux deux. Hein. Bon, c'est Jean-Paul II hein, lui-même qui disait « la foi et la raison sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité ». Donc c'est vrai que la raison est importante. Donc science et foi, les deux ensemble. Bon, donc jusqu'ici, l'Église estime que la révélation suffit. C'est vrai d'ailleurs, suffit, là, ça vient en plus. Mais comme je le dis dans le livre, je pense que c'est quand même, c'est comme le Saint-Suaire, hein, le linceul de Turin, sont des signes, à mon avis, pour nous aujourd'hui, qui méritent d'être prises en considération parce qu'on en a besoin. Parce qu'on est dans un monde très matérialiste. Voilà.
Mais est-ce à dire qu'à Rome, je ne sais pas, par exemple, l'Académie pontificale des sciences n'a jamais organisé de colloque ou de session sur ce sujet pour l'instant ?
Pour l'instant, non. J'espère bien que ça arrivera un jour. Mais pour l'instant, non. À Rome, non.
Alors, il y en a quand même quelques-uns qui se sont prononcés. Oui. Vous citez plusieurs noms, entre autres Mgr Jean Vernet. Alors, vous pouvez peut-être dire qui il est.
Alors, Jean Vernet était le spécialiste des sectes à une certaine époque. Il est décédé maintenant. Il a écrit sur le sujet, en effet.
Donc, il était délégué de l'Épiscopat français pour les questions concernant les sectes et les nouveaux phénomènes religieux.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il a dit sur les EMI ? Est-ce qu'il avait un point de vue ?
Il avait un point de vue favorable, sans être emballé lui-même, hein, mais c'était encore il y a quelques années, parce qu'il est mort il y a quelques années. Donc c'était au début des années 2000. Bon, il n'était pas opposé, sans plus. Voilà, il trouvait que ça méritait d'être approfondi, disons. Alors là-dessus, il y a eu un autre évêque, enfin qui n'était pas évêque à cette époque-là, Michel Aupetit, qui est maintenant évêque de Nanterre, mais qui est l'avantage, c'est qu'il est médecin et théologien, quoi. Et lui, il a travaillé sur le sujet et il le présente de façon assez positive.
Donc, il a écrit un ouvrage aux éditions Salvator en 2009, La mort et après.
Voilà. Et il débute cet ouvrage en parlant des EMI. Donc c'est quand même intéressant.
Et qu'est-ce qu'il en dit justement ? Il dit qu'on peut y apporter un crédit, que ça peut être
complètement
considéré comme une expérience spirituelle ?
Ah oui, lui le voit très positivement en disant que c'est une expérience à prendre en considération aujourd'hui. Et que c'est une expérience donc de l'amour de Dieu pour nous qui touche les gens et qui est très importante.
Et on a envie de dire, il s'est fait taper sur les doigts, il s'est fait reprendre par certains de ses frères évêques.
Non.
Quelle a été un peu la
non,
réaction ?
Je crois pas, non. Ça a été accepté. Non, je pense pas qu'il y ait eu de réaction négative.
Est-ce qu'il faut citer d'autres exemples, d'autres personnes qui se sont prononcées sur le sujet, d'autres
Alors vous avez Mgr Léonard.
Donc il est l'ancien archevêque de Bruxelles.
Exactement, archevêque émérite de Bruxelles, qui a écrit sur les EMI le site Aletheia.
D'accord, donc site d'information chrétien.
Oui, donc qu'on trouve sur Internet et qui est pas mal. Et moi, je l'ai rencontré, Mgr Léonard.
Donc, il a écrit quoi ? Un article, pas un livre ?
C'est question-réponse. Donc, question sur les EMI. Donc, ces questions-réponses, c'est trois pages, quoi, sur le site. Mais il n'a pas écrit de livre. Et je lui ai envoyé mon livre, et ça lui a beaucoup plu, et il m'a remercié.
Alors vous citez aussi le père François Brune. Est-ce que oui. vous pouvez nous dire qui est ce père François Brune qui, semble-t-il, lui, a énormément travaillé sur le sujet?
Beaucoup travaillé sur le sujet. C'est un théologien qui a écrit « Pour que l'homme devienne Dieu ». C'est son livre « Princeps », à mon avis. Donc il est très sensible à l'Orient chrétien. Et lui, il a travaillé sur le sujet énormément. Allant même très loin dans le contact avec les défunts. Là, je le suis pas tout à fait parce que je pense que c'est quand même assez risqué. Bon, lui, il peut peut-être se permettre. Moi, je ne conseillerais à personne de vouloir entretenir une relation avec des défunts. Ça peut arriver hein, que des défunts, surtout dans les premiers temps de leur décès, et surtout s'ils sont proches, aient un contact avec les vivants restants. Moi, j'ai connu une journaliste, justement, qui me disait que son fils, qui était mort, avait eu le moyen de lui parler, d'une certaine façon, dans les jours qui ont suivi, et ça l'avait rassuré. Mais je crois qu'il ne faut pas vouloir entretenir ce genre de relation. C'est donné, tant mieux, mais il faut l'accueillir, mais pas aller plus loin.
Mais d'ailleurs, c'est ce que dit la tradition de l'Église, c'est qu'il ne faut pas du tout chercher à entrer en relation avec les morts.
Non, il ne faut surtout pas chercher. Parce qu'en fait, on risque fort, après, d'entrer en contact avec des entités qui prennent la place du défunt que l'on connaît, qui sont des âmes errantes, souvent à la suite d'accidents, et qui essayent de revenir à la vie et d'avoir des contacts avec les vivants. Et ça peut vraiment troubler et perturber fortement.
Donc, hormis, pour résumer, Mgr Michel Le Petit et cet article de Mgr Léonard, donc ancien archevêque de Bruxelles, il n'y a pas grand-chose en fait. Est-ce que ça vous a pas freiné dans l'écriture de cet ouvrage en vous disant
au contraire,
j'ai beau être médecin, qui suis-je pour prendre position à la place de l'Église d'une certaine manière sur...
Oui, mais je ne prends pas position à la place de l'Église hein, quand même. Non, c'est mon point de vue personnel en tant que chrétien lambda, mais je crois que les laïcs aujourd'hui ont le droit de dire ce qu'ils pensent et de pas attendre que les hiérarchies leur donnent leur bénédiction. Hein, sinon. On va pas avancer beaucoup, mais les réactions que j'ai, il y a aussi Mgr Hayet donc est positive, Mgr Ginoux donc l'évêque de Montauban.
L'évêque de Montauban, évêque référent de la radio.
Eh bien, il est assez positif puisqu'il avait acheté mon livre à Lourdes et puis qu'il m'a demandé de faire une conférence sur le sujet chez lui à Montauban, donc il est favorable.
Alors, qu'est-ce qui fait dans ces cas-là qu'on peut parler d'une expérience spirituelle? Une autre question, c'est que dans toutes ces expériences que vous décrivez, enfin les expériences que vous avez décrites, est-ce que les expériences sont différentes en fonction de la croyance de la personne? Est-ce que, je ne sais pas, alors, le bouddhiste rencontre Bouddha? Est-ce que alors, le musulman rencontre...
Chez les bouddhistes, je n'ai pas beaucoup de contacts. J'ai des bouddhistes qui viennent à mes conférences, ils sont intéressés. Mais eux, ils sont plus pour la réincarnation. Ce que moi, je leur dis, je n'y crois pas. Bon. Je pense qu'on n'a qu'une vie, une seule vie, et qu'on revient dans notre propre corps. Hein. Les gens qui font une expérience de mort imminente, qui partent ailleurs, ils reviennent dans leur corps, pas dans le corps d'un voisin ou d'un animal. Donc, ça, je n'y crois pas trop. Par contre...
sur leurs expériences, en dehors de votre opinion, est-ce qu'en fonction... De la philosophie qu'on a, de la spiritualité qu'on a,
et de la culture,
religion,
et de la culture.
Est-ce qu'on fait une expérience différente?
Oui. Au départ, oui. C'est-à-dire que, par exemple, le tunnel, ça n'existe pas chez tout le monde. D'autres, et en particulier chez les musulmans, parce que je connais quand même assez bien le monde musulman, passent à travers une porte, ou un couloir, ou un fleuve. Bon. C'est très différent. Par contre, alors, ce qui est quand même assez passionnant, c'est que ces personnes-là, d'autres religions, et en particulier musulmans, qui font la rencontre d'un Dieu, d'un être de lumière plein d'amour pour eux, ces gens-là sont très marqués et viennent, ceux que je connais, à la foi chrétienne. Parce que ils connaissaient Dieu par leur religion, mais un Dieu qui n'est pas un père, qui n'a pas cette tendresse pour eux, qui est un Dieu auquel on se soumet d'une certaine façon, auquel on adhère par la foi, par les prières, etc. Mais pas un Dieu d'amour. Et là, ils font tout d'un coup l'expérience d'un Dieu plein d'amour pour eux, ils le reconnaissent comme tel, et à partir de là, en tout cas j'ai l'exemple de deux musulmanes, elles sont demandées le baptême.
Donc vous dites que vous avez fait en fait à partir des, quoi, des témoignages que vous aviez ou des personnes que vous connaissiez, est-ce qu'il y a des études systématiques qui ont été faites, on va dire, à partir des confessions dans différentes régions du monde, ou est-ce qu'on s'est concentré sur des pays chrétiens, des gens qui ont fait des, qui étaient chrétiens, qui ont fait ces expériences ?
Les écrits que je connais sont dans le monde occidental judéo-chrétien. Dans les autres pays, non. Pour l'instant, non.
D'accord. Donc, la plupart du temps, l'expérience est relativement semblable.
Semblable,
et
oui.
Pour tous...
Il y a beaucoup de similitudes.
Il n'y a pas de rencontre de grandes figures spirituelles. C'est-à-dire, on rencontre pas Bouddha, Mahomet, Jésus...
Jésus, si. Jésus, la Vierge Marie, les saints, des saints, enfin, certains saints, oui. Par contre, j'ai eu personne qui m'a dit avoir rencontré Mahomet ou Bouddha.
Jamais ?
Non.
Et dans toutes les études que vous avez vues, vous n'avez pas eu de tels échos ?
Non.
Donc, ceci étant posé, c'est-à-dire que, du coup, vous en déduisez que c'est une expérience chrétienne. Et là-dessus, Mgr Hayet, qui a préfacé l'ouvrage, ou les évêques qu'on a cités, ne disent pas autre chose. En tout cas, ils y voient un lien. Alors, comment on saute le pas de cette expérience, spirituelle, au fait de nommer ça comme une expérience chrétienne ? Qu'est-ce à dire ? Est-ce que c'est pas usurpé, quelque part, l'expérience de ces gens ?
Disons, c'est pas forcément chrétien. Disons, c'est la rencontre d'un Dieu d'amour. Voilà. C'est surtout ça qui est important. Un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde. Mais ça, je peux vous donner des témoignages, des écrits de gens qui m'ont donné leurs témoignages. Par exemple, des paroles d'expérienceurs. Quand ces personnes disent « j'ai ressenti ce que pouvait être un amour au-delà de tout ce qui peut exister », par exemple. Ou alors « c'était extraordinaire, un bonheur que personne ne peut imaginer, un endroit où le mal n'existe pas ». J'avais accès à la joie du monde entier, à la perception et la sensibilité de tout ce qui vit, et j'avais l'hyperconscience que le malheur est inacceptable. Alors tout ça, c'est pas chrétien en soi, mais c'est vraiment par rapport à un Dieu d'amour. Je n'ai jamais plus ressenti une pareille joie. J'étais bien, j'aurais voulu rester là, en ce lieu où les larmes sont effacées. Il n'y avait pas une seule parole, simplement une évidence. J'aimais et je me savais aimé pour toujours, pour l'éternité, point. Rien ne me détournerait de cette certitude, et jamais je n'ai douté de ce partage immédiat et éternel. Voilà comment je pourrais transmettre mon vécu. Tu es aimé, tu es chéri pour toujours, il n'y a rien que tu puisses mal faire, tu seras éternellement aimé et tu n'as rien à craindre. Ou encore... Durant ce coma, je me suis vu sortir de moi-même avec un choix à faire, les ténèbres ou la lumière, la mort ou la vie. J'ai choisi la lumière, j'ai choisi la vie. Quand je suis revenu à moi, j'avais la certitude que Dieu existe et qu'il m'aime. Bon, vous voyez, voilà, ce genre de témoignage. Alors, on ne peut pas dire que ce soit estampillé chrétien, c'est estampillé Dieu-amour.
Alors, vous faites, dans votre ouvrage un petit peu plus loin, un parallèle avec d'autres phénomènes extraordinaires. Donc, vous les nommez. Pour vous, ce sont les apparitions. Alors, on peut se dire que vous connaissez un petit peu
le sujet,
même si vous n'étiez pas médecin à Lourdes du temps des apparitions.
Non.
Les manifestations mystiques.
Oui.
Et le troisième sujet, vous allez m'aider, les miracles. C'est pareil. Pourquoi vous osez ce parallèle ? On a envie de dire, là, le docteur Patrick Tellier, il a arrêté son... Enfin, le médecin s'est arrêté page 170, et maintenant, c'est le croyant qui parle, non ?
Oui, mais que ce soit dans les apparitions, les manifestations mystiques ou les miracles, c'est vrai qu'il faut utiliser la raison et la foi encore, là. La raison et la foi sont nécessaires. Alors, je sais pas, on peut les prendre... Moi, c'est surtout à partir des miracles, bien entendu, au départ, que j'ai été impressionné, parce que dans les miracles, la personne qui vit un miracle profondément fait aussi une expérience intérieure de la rencontre d'un Dieu d'amour. C'est vraiment caractéristique. C'est pour moi le signe que la guérison qui s'est passée chez une personne quelconque, lambda, comme vous et moi, a vécu un miracle. Elle a, en même temps que sa guérison, dans cette guérison, elle voit le passage d'un Dieu d'amour qui les a guéris.
Mais là, c'est le chrétien qui parle plus que le médecin, non ?
C'est-à-dire que pour qu'une guérison soit reconnue miraculeuse, il faut ça. Alors moi, à partir du moment où j'ai quelqu'un qui vient me raconter son histoire de guérison, elle a guéri n'importe quoi, ça peut être quelque chose de grave ou quelque chose de léger d'ailleurs, mais je l'interroge, je l'écoute, j'essaie d'aller plus loin, je veux en savoir plus. Et si je prends le temps de l'entendre, elle va me dire, ben oui, là, ce que j'ai vécu, c'est pas naturel, c'est quelque chose de surnaturel. Et je peux dire que, à partir de là, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je ne vois plus du tout les choses de la même façon parce que j'ai fait une expérience d'un amour très fort qui fait que maintenant je vois les choses autrement. Donc ça a vraiment un rapport très net avec les EMI. J'ai écrit un livre entier là-dessus, hein, Lourdes des miracles pour notre guérison, qui vient d'ailleurs d'être réédité par Parole et Silence, où je donne, durant 150 ans d'histoire de Lourdes, des exemples de cette expérience unique de gens qui ont vécu une guérison, et à travers cette guérison, leur vie a été bouleversée. C'est alors, très intéressant, ça.
Vous citez donc aussi les apparitions et les manifestations mystiques comme parallèle. Est-ce que vous pouvez nous aller jusqu'au bout de ce parallèle ?
Alors, dans les manifestations mystiques, c'est sûr que là... Il semblerait que, parce que les manifestations mystiques sont quand même assez étonnantes, c'est par exemple la lévitation. Bon, moi j'ai beaucoup étudié Mariam, la petite arabe qui a vécu deux fois trois ans à Pau où j'habite, au Carmel de Pau. On l'a retrouvée dans un arbre à 35 mètres de haut, en lévitation et en extase. Comment expliquer ça ? La science ne peut pas l'expliquer. Elle ne peut pas l'expliquer. Ou alors Marthe Robin qui est restée pendant des années sans manger ni boire. C'est inexplicable. Et pourtant, il se passe quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour moi, c'est qu'il y a l'existence du corps, tout le monde la voit, mais il y a aussi autre chose. Et c'est là où on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi l'âme intérieure, l'âme vitale, qui maintient le corps en vie et qui peut prendre... le pas, je dirais, sur le corps, dépasser le corps, prendre en charge le corps et prendre le corps et l'emmener à 35 mètres de haut ou être nourri simplement de la communion eucharistique et maintenir le corps en vie à partir de cette âme vitale.
Oui, il y a l'exemple de Sainte Bernadette aussi, dont le corps, je crois, est incorruptible.
Était conservé, était retrouvé intact.
Ce qui veut dire,
Sainte Bernadette, fait... mais vous avez ici plus près, vous avez Sainte Germaine de Pibrac, hein, son corps a été retrouvé intact aussi. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, tiens, après tout, c'était pas n'importe qui celle-là. Et on s'est rendu compte, a posteriori, qu'elle avait vécu quelque chose d'incroyable durant son existence.
Alors on va faire une deuxième pause musicale, et puis après, un petit peu plus rapidement, puisque l'émission avance... on va essayer de voir un peu ce qu'on peut en déduire. Je vous appelais Père Patrick Tellier au début, vous n'êtes pas prêtre, vous êtes père
non,
de famille,
non,
mais vous
non,
êtes
non.
quand même chrétien et puis vous avez, on va dire, une
bah,
sacrée
oui.
expérience.
Oui.
Comment ces gens reviennent ? Vous avez commencé à nous le dire, mais qu'est-ce qui change dans leur vie et qu'est-ce que ça peut nous dire à tout à chacun ? Je rappelle le titre de votre ouvrage, Expérience de mort imminente aux éditions Arthège.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission Vivante Église donc, sur les NDE, Near Death Experience, à partir donc, d'un ouvrage, si vous nous prenez en cours de route, du docteur Patrick Tellier, Expérience de mort imminente, paru aux éditions Artege. Le docteur Patrick Tellier étant l'ancien médecin permanent du bureau médical des Sanctuaires de Lourdes de 1998 à 2010. Alors, dans cette fin d'émission, on s'est dit ensemble que ce qui pouvait être intéressant, c'est de voir l'écho que ça peut avoir pour tout à chacun, même si on l'a vu au long de cette émission. Je voulais commencer par vous demander, vous y avez un peu répondu au long de cette émission, mais globalement, ou enfin, je sais pas, statistiquement, comment les gens reviennent de ces expériences ?
Ah, ils reviennent différents. Tous les témoignages que j'ai eus montrent que ce qui a été vécu là est inscrit en eux. J'ai eu dernièrement, je faisais des dédicaces à la librairie de Lourdes, et j'ai un prêtre qui est passé très rapidement, il n'avait pas le temps, mais il m'a dit, écoutez, docteur, j'ai lu votre livre. Avant de devenir prêtre, il y a 20 ans, j'ai fait cette expérience. Je peux vous dire que c'est inscrit dans mes cellules. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est inscrit dans mes cellules. C'est pas seulement dans ma mémoire, c'est inscrit en moi. J'étais l'autre soir à une conférence à Montauban, donc près d'ici, et quelqu'un m'a dit à peu près la même chose. J'ai vécu ça. C'est inscrit en moi. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé il y a 20 ou 30 ans et je ne peux pas faire comme si ça n'avait pas lieu. C'est à chaque instant, c'est en moi.
Donc les gens, premier effet, les gens n'ont plus peur de la mort.
Alors, premier effet, premier effet, c'est que ils regardent la vie autrement. Ils ont beaucoup plus de compassion pour les autres. Ils retrouvent une vie spirituelle. Alors, bon, je parle de ceux qui m'ont donné leur témoignage. Alors bien sûr, il y en a aussi qui n'en parlent pas, qui ont enfoui ça une fois pour toutes et qui veulent plus en entendre parler. Ça peut exister. Et je pense que ça doit arriver. Mais ceux qui l'ont vécu positivement, donc avant tout, ils regardent la vie autrement. Et entre autres, ils estiment que la vie, que la mort fait partie de la vie, que la mort fait partie de leur vie, et ils n'ont absolument plus peur de la mort. Au contraire, j'irais, ils se disent, bon, ben, ça sera un passage qui m'amènera à une autre vie. En sachant que cette autre vie sera, j'irais, le prolongement de notre vie actuelle, c'est clair.
Donc, oui, c'est là. Ils reviennent transformés, en fait.
Transformés.
Mais ils ne deviennent pas tous chrétiens dans la foulée.
Enfin, pas forcément. Non, pas ouais. Du tout. Pas obligatoirement. Moi, non. Bien sûr que non. Ils ont une spiritualité. Ceux qui étaient chrétiens ont approfondi leur foi chrétienne. Certains, comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu deux musulmanes qui sont devenues chrétiennes. Mais bon, bah, d'autres continuent avoir une spiritualité qui est la leur. Et pourquoi pas.
Alors, qu'est-ce que ça dit aussi sur la mort ? C'est-à-dire que...
Ben, la mort est un moment important. Je dirais, c'est peut-être le sommet de notre vie, quoi. C'est peut-être l'acte le plus important, même, de notre existence, le couronnement, je dirais, de notre existence. Donc, aujourd'hui, on a un peu tendance à soit repousser ce temps-là, à ne pas le regarder en face, à l'éliminer même, hein, la mort de la mort, on parle aujourd'hui, on voudrait qu'il n'y ait plus de mort, que l'interdire. Je trouve que ça, c'est quand même dommage, quoi, parce que on s'en rend bien compte que ce moment-là est crucial. Donc, combien il est important de revenir à cette mort douce, hein, qu'on a pendant tout des siècles et des siècles, on a essayé de mettre en évidence, d'accompagner le mourant, d'être avec lui, de l'aider dans ce passage.
Et pourquoi c'est important d'accompagner le mourant à la lumière des EMI ? Parce que jusque-là, vous n'avez pas parlé du tout de ça. On a l'impression que les gens font leur expérience et puis c'est tout à fait indépendant de ce qui peut être vécu autour de la personne mourante.
Ah ben non, parce que là, à travers les EMI, on sait qu'il y a un passage dans un endroit différent, que ce passage, bon, est quand même difficile. La mort, c'est quand même un séisme, je dirais. C'est pas si simple, cette séparation du corps et de l'âme, c'est pas simple. Donc, moi, je pense que accompagner un défunt, c'est un devoir et aussi un droit élémentaire, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre les défunts ailleurs. On veut pas les voir, on veut pas savoir, etc. C'est occulté, quoi, d'une certaine façon. Non, moi, je crois qu'il faut regarder les choses en face, accepter que la mort fasse partie de la vie, comme ils le disent eux-mêmes, et d'ailleurs, le docteur Moody, dans son dernier livre, raconte que il est possible pour ceux qui accompagnent des défunts de vivre avec eux leur expérience de mort imminente. Parce que j'ai eu plusieurs témoignages de gens qui accompagnaient des mourants, et le mourant, quand il était bien accompagné, pouvait, juste avant de mourir définitivement, leur dire je suis en train de vivre quelque chose d'incroyable. Ils sont déjà dans l'autre monde et en même temps, ils sont toujours là. Et c'est assez étonnant.
Ils disent un mot, ils disent un geste.
Soit un geste, soit je me souviens de quelqu'un qui disait qu'il avait accompagné son père qui avait très très peur de la mort et évidemment il l'avait suivi de très près parce que son père lui a dit à un moment ça y est je vois l'autre côté c'est beau je n'ai plus de crainte donc voilà il avait déjà été un petit peu de l'autre côté mais il était encore là moi je crois que ce moment là compte énormément dans l'existence. Il faut aider. Il faut être sûr que ce qui se passe là n'est pas du tout anodin. Hein?
Alors, ce qui peut être troublant aussi, c'est qu'en fait, ces EMI, dans leur immense majorité, sont des expériences positives. Du coup, on se dit, enfin, quand on est croyant, à quoi ça sert dans ces cas-là d'accompagner les mourants, de prier pour eux? Est-ce qu'il y a dans ces expériences une part de combat?
Oui, quand même.
Si oui, à quoi ressemble-t-elle à quoi ressemble-t-il ce combat?
C'est le combat, c'est toujours pareil, c'est le combat entre le bien et le mal qui est là. En fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que la vie qui nous attend, elle sera le prolongement de celle que l'on vit ici. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas, parfait, on a toujours des blessures en nous, etc., qui sont là. Et plus elles sont importantes, plus je pense ce moment du passage de l'autre côté est difficile. Et donc, c'est là où on a besoin du secours d'une personne proche ou alors de l'Église, hein, ce qu'on appelle les derniers sacrements qui peuvent aider la personne à faire ce passage et à se libérer, à se pardonner et à abandonner tous les moments compliqués qu'il a pu vivre dans son existence et à partir d'ici et aller de l'autre côté, rasséréner et adouci, je dirais. Voilà, on a besoin de ça.
Pour finir, vous répondez pas à la question si vous voulez pas, mais on se dit, le docteur Patrick Tellier, il a déjà été médecin permanent du bureau médical des Sanctuaires de Lourdes, donc pendant 12 ans. Il écrit un livre sur les expériences de mort imminente. Du coup, je sais pas, vous, la mort, vous avez plus du tout peur, du tout.
Ah non, je dirais pas ça. Non, parce que j'en sais rien. Non, je la vois maintenant autrement, comme une expérience positive. Dire que j'en ai pas peur, je crois que tout le monde a forcément peur de ce passage parce que c'est un grand mystère et c'est quand même l'inconnu. Bon, même si d'après ce que j'ai pu glaner, c'est merveilleux, mais c'est quand même un autre monde, vous savez, c'est comme les enfants dans le sein de leur mère, j'en parle un petit peu au début de mon livre, ils savent pas ce qu'il va y avoir après, hein. Ils vivent quelque chose à fond, on est dedans, on est dans notre monde, et puis il y a un autre monde, bon, cet autre monde, il est là, je pense qu'il sera merveilleux, mais c'est normal qu'on soit un peu hésitant, parce que c'est pas simple.
Merci beaucoup, docteur Patrick Tellier, d'être venu nous parler donc de votre ouvrage. Je rappelle son titre une dernière fois, « Expérience de mort imminente » aux éditions Artege, un livre donc à lire. Et peut-être aurez-vous l'occasion, chers auditeurs, aussi d'assister à une de ses conférences, puisque le docteur Patrick Tellier bat la campagne en France et en Midi-Pyrénées pour parler de cet ouvrage. Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.